C'était quand même un rêve de jeunesse, c'était d'habiter dans le Nouveau Monde, découvrir le Nouveau Monde. On avait aussi voyagé au préalable pendant 1 an, dont 3 mois en Australie. Et puis, certainement à la suite de ça, effectivement, il y avait une envie, une très grande envie de retourner en Australie et de s'y établir.
Quand on part comme ça, quand on est jeune, même en couple, on franchit facilement le pas. Quand on a 3 enfants, parfois, c'est peut-être un peu plus compliqué. Est-ce qu'il n'y a pas eu de crainte par rapport à ça?
Alors, des craintes, bien sûr qu'il y en a, dans le sens qu'on sait ce qu'on quitte, on ne sait pas ce qu'on va trouver. C'est ça le grand défi. Et je pense que l'envie était tellement forte qu'il fallait oublier des choses finalement qui font que la vie est sécurisée, parce qu'on partait complètement dans l'inconnu. C'est-à-dire que mon mari, après bien des recherches, avait finalement trouvé un travail. Donc on savait qu'il avait un travail, mais qui était très mal payé. Et puis voilà, on partait avec ça, on n'avait aucune adresse, on n'avait aucune. Voilà, il n'y avait pas une maison qui nous attendait, ou il n'y avait pas un appartement qui nous attendait, il n'y avait pas un comité d'accueil à l'aéroport. Ce n'était pas du tout ce que vivent finalement certaines personnes qui sont envoyées, par exemple, par une entreprise. Non. Mais enfin, on a vendu tout, ce qui nous restait, et puis on est parti avec 5 valises.
Alors, vous arrivez là-bas avec votre mari, votre 5 valises, vos 3 enfants en bas âge, vous faites quoi?
Qu'est-ce qu'on a fait? Alors, on a quand même réfléchi à la chose, c'est-à-dire que déjà, on est parti à Melbourne. Hein. Melbourne, pour vous donner quand même une idée, c'est 4 millions d'habitants. Voilà, c'est pas une petite ville suisse. Hein. Et puis, alors, au préalable, ma sœur, qui avait, elle, voyagé en Australie, avait rencontré quelqu'un à Melbourne. C'était quelqu'un qui avait 65 ans. Je l'ai rencontré un jour et je lui ai écrit une lettre avant de partir en lui demandant: est-ce que vous pouvez me dire où se trouve le camping le plus proche? Parce qu'on va aller, voilà, on va aller dormir sous tente, ça ne nous coûte pas trop cher. Le temps, voilà, de savoir où aller. Et puis, il m'a envoyé une lettre en me disant: est-ce que tu te rends bien compte que c'est une ville de 4 millions d'habitants? Ton mari, où il travaillera, ça sera près du centre de la city. Donc, des campings, il n'y en a pas. Donc, il m'a dit: ce que je vous propose, c'est que vous veniez chez moi et puis je vous héberge, je vous accueille le temps que vous trouviez où vous poser. Et c'est ce qu'on a fait.
Et finalement, vous êtes arrivé à trouver un logement.
On a fini par trouver une maison qui était libre depuis 6 mois et qui n'était pas très très loin du travail de mon mari, parce que l'idée, c'était quand même qu'il puisse y aller à vélo. Et cette maison, elle était libre depuis 6 mois. On s'est d'abord demandé vraiment pourquoi. Quand on est entré, effectivement, c'était une maison qui avait été achetée par le propriétaire qui habitait juste à côté. Et puis c'est une maison où absolument rien n'avait été fait, pas de coup de peinture. Enfin, il fallait voir rien quand on ouvrait la porte, l'odeur qui arrivait. Donc même les enfants qui étaient en bas âge à ce moment-là, ils ont dit: oh non, non, nous, c'est exclu, on ne veut pas aller habiter là. Et puis nous, ce qu'on s'est dit, c'est qu'il y avait un magnifique jardin, bon, qui n'était pas du tout entretenu, mais il y avait des palmiers, il y avait des citronniers, il y avait des bananiers. Et puis c'est vrai que c'était une jungle, ce n'était pas un vrai jardin. Mais c'est ça qui nous a attirés. Et puis on s'est dit: tant pis pour la maison, c'est vrai qu'elle était un peu délabrée, on va faire quelque chose.
Et donc vous avez finalement craqué pour cette maison, vous installez, j'imagine, de la rénovation, vous installez tranquillement, votre mari travaille, et vous, avec les enfants, comment ça se passe, l'acclimatation?
Alors déjà, il a fallu se dépêcher de trouver une école. Donc la maison, on l'avait aussi finalement choisie parce qu'elle était proche d'une école primaire, qui nous semblait sympathique comme ça. Alors je suis allée voir le directeur en lui expliquant ce qui m'amenait ce jour-là. Et puis ce qu'on a découvert très rapidement en Australie, c'est que finalement il y a le choix des écoles. Donc il m'a bien expliqué que c'était pas parce que j'habitais là que j'étais obligée d'envoyer mes enfants à cette école-là. Et puis finalement, nous, c'était l'idée qu'ils puissent être autonomes, qu'ils puissent y aller à pied. Et puis, je pensais aussi personnellement qu'ils puissent rentrer à midi pour manger. Mais là, j'ai très vite compris que, ben voilà, en Australie, on ne rentre jamais à l'école. Même si on habite à 2 minutes de la maison, on prépare ses sandwichs le matin. Voilà, tout le monde commence l'école vers les 9 h et puis on revient 3 h 30 de l'après-midi.
Alors, au total, vous avez passé 8 ans en Australie avec votre famille. Comment se sont déroulées ces 8 années?
Quand on est en Suisse et qu'on s'imagine que quelqu'un vit en Australie, on s'imagine toujours qu'il doit être au bord de la plage, qui doit être en train de se bronzer. C'est vrai qu'à Melbourne, il y a une plage tout près d'où on habitait. Mais enfin, voilà, quand on s'installe, tout est à découvrir au niveau de la mentalité, aussi finalement comment le fonctionnement du pays en général. Et puis au fur et à mesure qu'on s'acclimate et qu'on prend connaissance des choses, on tombe quand même dans une certaine routine, comme tout pays, peu importe où on soit dans le monde. Mais c'était surtout finalement les week-ends et puis les amis qu'on a rencontrés qui ont fait une énorme différence, parce que ce que je peux dire du peuple australien, c'est que c'est un pays extrêmement accueillant. Et puis, comme au niveau des écoles, c'est peut-être ça qu'il faut bien se rendre compte, l'État ne donne pas autant d'argent pour les écoles qu'en Suisse, c'est-à-dire que les parents doivent énormément participer au fonctionnement de l'école. On doit faire des travaux de conciergerie, hein. Je veux dire, on doit nettoyer l'école, on doit récolter de l'argent pour que l'école ait assez d'argent pour son fonctionnement annuel, etc. Et tout ça fait qu'il y a un rapprochement des parents qui se fait automatiquement, et on a créé vraiment énormément d'amitié. Et puis maintenant, le Noirmont est un peu devenu, là où on habite maintenant, est un peu devenu un centre pour les Australiens qui viennent, qui nous envoient leurs enfants qui apprennent le français, etc. Donc on a, voilà, les liens restent et sont très très forts.